Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris avec un plat du jour, une madeleine, une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau présentée aujourd'hui par Pierre Hiverna, notre partenaire de la plateforme de l'alimentation générale. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Alors la cerise sur le gâteau, aujourd'hui de quoi s'agit-il ?
Eh bien je vous emmène à Beyrouth, c'est une surprise.
À tout à l'heure pour la surprise, on aime les surprises dans Les Bonnes Choses. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Vous occupez-vous de la madeleine, le souvenir gustatif d'une personnalité. Quelle personnalité aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai rencontré Robert Guédiguian qui m'a reçu dans les locaux de sa boîte de production à Paris.
La madeleine, c'est tout à l'heure donc à 12h15. Et nous allons essayer dans ce début d'émission pour le plat du jour de comprendre pourquoi les stéréotypes de genre ont la peau si dure aussi en cuisine. Pourquoi l'homme au fourneau des grands restaurants et la femme à la préparation du repas quotidien sont souvent encore des réalités et pas seulement des caricatures. Et comment des femmes épaulées par quelques hommes cherchent aujourd'hui à changer la donne ? Comment faire pour qu'à côté du cuisinier et de la ménagère, il y ait plus de cuisinières et de ménagers ? Cuisine et genre, c'est le sujet de notre plat du jour.
Pourquoi la cuisine pour les hommes ?
Eh bien, parce que je pense que les hommes sont un peu déshérités dans la vie. Vous savez qu'on est, on est incapable de trouver un steak à point chez la femme dont le mari aime le beefsteak saignant. Elle le fait toujours, le beefsteak, au goût de son mari.
En chez nous.
Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Mais tout bouge. Et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine. Fait la plongée, il essuie.
Ils ne font pas la cuisine que pour s'amuser. Il y a des moments où ils font la cuisine aussi pour rendre service à leurs femmes.
Pour les hommes.
Ah, les hommes sont des gens économes, ce n'est pas...
Ils font peut-être ça parce qu'ils sont tellement...
Ils ne gaspillent pas l'argent du ménage, eux.
Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Oh ben non.
Bonjour Esther El Payani.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes autrice et journaliste culinaire. Vous avez écrit avec Véran Frediani, chef feu. ES même. 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France. C'est un livre préfacé par Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic, c'est la seule femme chef 3 étoiles au guide Michelin en France. C'est un livre qui est apparu aux éditions Nourriture Fou, un guide qui recense en quelque sorte toutes les femmes cuisinières de France.
Alors peut-être pas toutes, car depuis qu'il a été publié, on a été assaillis de demandes de femmes qui se sont signalées dans leur cuisine. Donc je pense qu'il y en a bien plus, on n'a pas pu être exhaustif.
Deuxième volet à venir donc. Bonjour à vous Kylian Stingel.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'université François Rabelais de Tours au sein de l'Institut d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation. Vous avez quant à vous dirigé un ouvrage collectif qui a pour titre « La cuisine a-t-elle un sexe ? Femme, homme, mode d'emploi du genre en cuisine ?» préfacé par la chef Fatema Hall et paru aux éditions L'Harmattan. Alors on entendait un extrait de l'émission de Catherine et Raymond dans les années 50 avec aussi la chanson d'Anne Sylvestre. Ça remonte à quelques années. Est-ce que vous diriez que les choses sont encore comme on l'entendait, que les stéréotypes ont la vie dure même en cuisine ou quand même ça a évolué, Kylian Stingel ?
Ouais, j'aurais commencé par un stéréotype et donné la parole à Esther.
Eh bien voyez, je casse les choses déjà d'emblée.
Là on est quand même aussi sur un jeu de théâtralisation entre ces deux acteurs de la télévision des années 50-60. Il y avait quand même un fort spectacle qui était demandé. Donc, est-ce que Raymond n'exagérait pas un peu ? Maintenant, il avait aussi un côté, on le sait, qui était tout à fait naturel chez lui. Donc, est-ce que les stéréotypes ont la vie dure ? Oui, je crois que malheureusement, malgré tous les efforts qu'on fait actuellement, ils ont encore la vie dure, car si je ne fais pas de science et que je regarde uniquement par ma propre expérience, il s'avère que mon grand-père était déjà quelqu'un qui appartenait à une génération où... l'homme avait plus de prédilection que la femme et la femme avait une place au foyer. Et c'est la génération de mon père qui a connu la révolution que nous connaissons des années 68 et ma génération qui mettons en application en devant être totalement en corrélation avec les attentes des deux côtés du genre. Donc oui, elle a la vie dure, je pense qu'il va falloir encore attendre 2 voire 3 générations afin que le sujet soit totalement lissé.
Esther El Payani, est-ce que le monde de la gastronomie, le monde de la cuisine que vous connaissez très bien est un monde sexiste, voire un monde machiste?
C'est un monde sexiste et machiste, ce n'est pas une raison pour ne pas le faire évoluer justement. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes qui sont inscrites dans les écoles de cuisine.
52% des élèves des écoles de cuisine sont des filles.
Alors après, on les perd souvent en cours de route.
94%
justement.
Des chefs sont des hommes.
Voilà, donc là, c'est un exemple de woman interrupting. Et... non, je suis très taquine. Mais le, en effet, ce monde-là, il est sexiste de tous les côtés, que ce soit aussi bien des chefs, que ce soit du côté des clients, parfois, sur certaines attentes, quand on vous tend une carte où il n'y a pas de prix, par exemple, quand vous êtes une femme, quand on est critique aussi, car il y a très peu de critiques au féminin, et parfois cela fait des... On nous fait un peu la vie dure de ce côté-là, puisqu'on n'est pas censé aimer les mêmes choses que les hommes. Genre, une femme ne va pas manger de tripes au restaurant.
Stéréotype. On y viendra tout à l'heure.
Il y a des stéréotypes d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire, du restaurant au consommateur.
Est-ce qu'on peut dire qu'on revient de loin avec cette question qu'il y a un Stangel dans l'histoire? Est-ce que c'est une question culturelle, la place des hommes qui sont en cuisine mais comme chef, et puis des femmes qui sont en cuisine mais quand il s'agit de faire le repas du quotidien?
Alors, on sait depuis toujours, la femme a toujours été au foyer, malheureusement. Excuse-moi, je pourrais répéter malheureusement à chacune de mes phrases quand je vais parler des stéréotypes. Malgré tout, les grandes phases de l'histoire ont montré que non seulement il y a la création des différents clubs anglais, par exemple, comme on voit dans le Tour du Monde en 80 jours, où les femmes étaient interdites de venir. Il y a aussi ces restaurants où seuls les hommes pouvaient être clients et les femmes étaient au service du client pour d'autres prestations. On peut penser au restaurant La Pérouse avec ses petits clubs et ses petites salles privées où il n'y avait pas que de la restauration qui se produisait. Donc on voit qu'il y a déjà beaucoup de formes de restauration, que ça soit en France ou en Angleterre au 19e siècle, qui avaient cette facétie de ne pas accueillir la femme. Petite parenthèse, aujourd'hui il existe en Angleterre des restaurants qui interdisent les hommes. Naturellement portés par des événements féministes, mais pour montrer aussi l'autre côté de la facette. Ce qu'il s'est passé dans notre histoire, c'est la problématique naturellement des guerres, comme on le sait, où les femmes ont dû quitter leur foyer pour aller prendre la place des hommes en tant qu'ouvriers dans les usines. Au retour des hommes, elles se sont aperçues qu'il était quand même beaucoup plus agréable et honorifique de créer quelque chose, même si c'est au sein d'une usine où naturellement on n'est plus servante, mais on est quand même au service de quelqu'un. La création est beaucoup plus intéressante que l'asservissement. Et on a vu donc à partir de ce moment-là des femmes qui ont souhaité prendre des activités masculines, qui ont quitté leur poste de servante dans les maisons bourgeoises. On a été, entre les deux guerres, dans une perte sèche de cuisinières modèles pour les familles bourgeoises. Et puis on se retrouve donc avec cette période de l'après-guerre, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, où les hommes repartent et les mères lyonnaises, mais bourguignonne aussi, et beaucoup d'autres
première
régions d'ailleurs.
Première à avoir obtenu 3 étoiles
on a gardé l'intitulé, on a gardé l'intitulé mère lyonnaise, mais on le sait avec le cas de Georges Blanc, ou Marc Menot même, où sa mère était avant tout une mère également cuisinière. Donc on a vu beaucoup de mères naître à ce moment-là, les fils ont repris la suite, et malheureusement pas les filles. Et là, pourquoi?
C'est la grande question, Esther El Payani. Alors, pourquoi elles sont... D'abord, est-ce qu'elles sont absentes? Est-ce que, par exemple, les mères lyonnaises ou Sophie Pic, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou est-ce qu'elles ont
plusieurs
été
phénomènes
invisibilisées?
Non, il y a plusieurs phénomènes concomitants, en fait. Quand on voit dans l'histoire des cuisiniers d'Alain Drouard, il raconte très bien au départ de la profession de cuisinier, on voit des critiques, critiquer les cuisinières, dire il ne faut pas qu'il y ait de femmes en cuisine, parce que c'est un métier qui cherche sa légitimité, c'est un métier neuf, et donc il a commencé en tant que chef par exclure les femmes, en disant elles n'ont pas les savoirs techniques suffisants et elles n'ont pas la force physique. On le retrouve très clairement écrit. Donc il y avait quand même dès le départ dans la conception du chef versus cuisinière. Donc il y a vraiment deux niveaux qui se créent. Et ça perdure en effet avec les mères lyonnaises qui ont, au moment du Michelin, le Michelin vote toujours pour l'assiette, historiquement parlant. Et en effet, c'était des endroits où on mangeait bien pour pas particulièrement cher. Et elle, c'est concomitant à la conception de ce qu'est la gastronomie française, de la création de la gastronomie française au XXe siècle. À l'origine, il y a des femmes. On les perd en route parce que arrive la médiatisation des chefs. premier lieu, Fernand Poin. Alors, on n'oublie pas Mado Poin, évidemment. Grande figure de la gastronomie. Mais c'est à ce moment-là, quand on starifie le chef, dans les années 50, qu'on les met derrière, finalement. Et même quand on va fouiller les archives du guide Michelin, souvent on a du mal à voir le nom du chef en fait qui tient le restaurant. Quand on cherche des étoilés pour savoir si elles ont été invisibilisées, c'est assez difficile de mettre la main dessus. Mais on en trouve beaucoup.
Estherelle, vous ne croyez pas que malgré tout, le fait de l'activité physique de ce métier, comme d'autres métiers de la gastronomie, on peut penser au fromager, où j'en parlais avec Roland Barthélémy, un fromager très connu sur Paris, où malheureusement sa femme était à côté de lui, et c'est lui qui faisait l'activité physique, donc c'est lui qu'on voyait, prenait en photo avec la meule, et c'est lui du coup qui était mis en lumière. Et en cuisine, on sait qu'il y a eu toute l'époque du charbon à remplir les fourneaux, les pianos, donc c'était quand même quelque chose de physique.
Et qui ont coûté la vie à beaucoup, beaucoup de cuisiniers. Alors, l'histoire de la force physique, il n'y a pas longtemps, c'est Annie Féold, qui est donc la chef étoilée qui est à Florence, qui a eu 3 étoiles en 1992, qui est la première femme chef à avoir été étoilée après les mères lyonnaises. Donc, il y a vraiment ce désert de donc 60 ans entre des mères lyonnaises et paf, une autre 3 étoiles qui arrive, elle est française mais elle exerce en Italie. Donc Annie Féold en 92, elle m'a dit il n'y a pas longtemps pendant une interview qu'elle pensait souvent aux mères lyonnaises avec de la peine en me disant quand même ces femmes-là n'avaient pas toute la technologie, c'était tellement plus dur pour elles, qu'est-ce que j'ai d'admiration pour elles. C'était extrêmement touchant de voir une étoilée d'aujourd'hui, qui a 70 ans passé, être touchée par cela. Maintenant, il n'y a absolument plus d'obstacles physiques pour manipuler un Pacojet ou un Thermomix, que vous fassiez 1m60 ou 1m90, la différence est la même. Et moi-même, quand j'ai passé mon CAP de cuisine l'année dernière, je faisais ma maline à transporter des marmites de fond pleines de 10 kilos, mais c'est moi qui ai secouru un de mes camarades qui était à moitié évanoui le jour où il a fallu vider une volaille.
Est-ce qu'en France, on est à peu près comme nos voisins? Est-ce qu'on est en retard? Juste pour donner quelques idées de chiffres par rapport aux étoilés, puisque vous parlez du guide Michelin. En 2018, parmi 621 restaurants étoilés en France, seuls 20 étaient avec une chef en cuisine. Et cette année, les guides ont eu l'air de se rattraper un peu, puisque sur les 75 chefs nouvellement étoilés, 11 sont des femmes. Je rappelle qu'il y en a eu 0 en 2017, 2 sur 57 en 2018. Une seule a obtenu 2 étoiles cette année, Estherelle Payani. Est-ce que on a fait des progrès de ce point de vue-là en France? Est-ce qu'on est très en retard par rapport à nos voisins?
Alors, par rapport à l'Italie, par exemple, pour moi, le meilleur parallèle à faire, c'est avec l'Italie, où il y a plus de 70 femmes chefs étoilées. Quand même, il y a aussi un prix de la femme chef.
Sur le même nombre de restaurants étoilés à peu près.
Il y en a environ 500, mais proportionnellement, ça fait quand même beaucoup plus. Et en discutant avec des chefs italiennes, elles m'ont dit que c'était lié aussi à notre histoire, que nous, on avait eu la Révolution française, et puis on avait eu les cuisiniers bourgeois qui avaient créé les établissements, alors qu'en Italie, il n'y avait pas eu la Révolution. Donc les établissements étaient en effet avec les femmes au fourneau et les hommes qui servaient. Donc elle m'a dit, en Italie, on a toujours vu des femmes au fourneau, puisqu'on n'est pas passé par la phase surmédiatisation du chef qui est intervenue beaucoup plus tard dans les années 90.
Vous revenez beaucoup sur les médias, le rôle des médias, la responsabilité des médias. Kylian Stangel.
Je reprends juste l'exemple d'Estherelle. Je ferai quand même un distinguo entre les restaurants qui sont issus de la Révolution française, comme vous l'avez expliqué, qui amènent vraiment ces restaurations de luxe, les frères Provençaux et autres grands véfours, aux différentes auberges qu'on avait à cette époque de la fin du 18e puis début 19e, qui, elles, en salle, profitaient d'un homme et d'une salle la plupart du temps, les deux. Et quand on regarde par exemple une auberge très connue sur Paris avec Laurent Ponneau, c'était un homme avec son épouse. Malheureusement, les illustrateurs caricaturistes de l'époque nous illustrent qui? L'homme Ramponeau déguisé avec
il s'est passé la même histoire il y a 2 ans au moment de la remise du guide Michelin. Vérane Frediani, qui est la co-autrice donc du guide chef, l'a raconté dans son livre Elle cuisine chez Hachette. Il y a eu plusieurs couples qui ont été primés il y a 2 ans. Eh bien, au départ, il n'était pas prévu de veste pour la femme. Donc, c'est arrivé au restaurant Pertinence à Paris. Le guide Michelin envoie une veste, vu qu'il faut avoir une veste brodée pour la remise de prix. Et le chef dit « Oui, elle est où l'autre ?» Puisque c'est un couple de chefs, un homme, une femme. Ils cuisinent ensemble, ils sont copropriétaires, donc ils sont 50-50. Le Michelin a dit « Bah non, enfin. » Donc, il a donné sa veste à sa femme. Là, il y en a une deuxième qui est apparue. Pour moi, l'histoire est édifiante sur le « Il y a les deux, mais on ne veut toujours en voir qu'un. »
Et les mots sont édifiants aussi, on va y revenir juste après la Madeleine. Restez avec nous tous les deux. La Madeleine des bonnes choses, Matteo Caranta, alors donc, aujourd'hui.
Eh bien, j'ai rencontré, je vous le disais, le réalisateur Robert Guédiguian qui vient de sortir Gloria Mundi au cinéma. Gloria Mundi, c'est un film noir qui décrit un monde désenchanté où la mise en concurrence de tous s'insère jusque dans les relations familiales. Les personnages du film, joués par sa bande d'amis et d'acteurs de toujours, comme Jean-Pierre Darroussin ou Ariane Ascaride, ont intégré les codes et les valeurs d'un monde du travail ubérisé, le tout dans une Marseille froide et désenchantée, très loin de la beauté de l'Estac. Et si c'est justement à l'Estac de son enfance qu'il remonte pour sa Madeleine, son plat n'est pas vraiment marseillais.
Ma Madeleine, c'est de la choucroute, en fait. Parce que ce que peu de gens savent de moi, c'est que je suis d'origine allemande. Ma mère est allemande, mon père est arménien, bien sûr, c'est plutôt le côté arménien, mais pas le côté allemand. Donc ma mère faisait de la choucroute, souvent mangeait ça pour déjeuner, très très bonne, évidemment elle faisait cuire le chou elle-même, hein, bien entendu, elle préparait tout. Donc elle commençait très tôt le matin, ça durait des heures de cuisson. Elle allait d'ailleurs acheter toute la charcuterie, tout le chou cru, elle achetait tout ça dans la seule charcuterie alsacienne qu'il y avait à Marseille. Vous imaginez que dans les années 60, des charcuteries alsaciennes à Marseille, il n'y en avait pas beaucoup. Et elle faisait ça, et quand elle faisait ça, bien sûr, tous mes amis, les amis que je vois encore aujourd'hui, avec qui je travaille toujours, venaient évidemment dîner. De la très bonne choucroute, il faut mettre une moitié de vin blanc et une moitié d'eau, en fait, pour diminuer un petit peu l'acidité. Il ne faut surtout pas mettre que du vin blanc, c'est trop fort. Et puis, je crois qu'il faut la faire, évidemment, avec de la graisse de cochon, avec ce qu'on appelle du sendou. On entasse comme ça des couches de choux, je veux dire. On les superpose. On met évidemment la charcuterie piquée au milieu, tout ça, je dis piqué pour que le jus des saucisses, effectivement, ne se répande dans le chou, etc. Et puis surtout, après, on laisse mijoter ça dans des feux, à tout petit feu, pendant des heures, des heures, des heures, jusqu'à ce que ça, tous ces sucs se mélangent et que ça soit un petit peu comme confit. Ce chou garde toujours un peu d'amertume et de croquant. Évidemment, avec une bouchée de saucisses en même temps, qui parfois un peu de fumée, un peu de gras, un peu de fumée, bien agressé. Et puis moi j'aime alors avec, plutôt que de mettre des pommes de terre qu'on fait bouillir souvent qu'on met à côté, j'aime bien de la purée. Justement, en termes de texture, la purée, c'est un petit peu comme une soupe, quoi, ça ne se mâche pas, quoi. Donc, je recommande de prendre à chaque fois un petit morceau de saucisse, un peu de chou et un peu de purée de la même bouchée. Voilà. C'est étrange, quand je mange une choucroute, à chaque fois je pense à l'Estac, au quartier dans lequel je suis né. C'est pour ça que c'est un souvenir, que c'est ma Madeleine, parce que c'est tellement particulier. Je vous dis, on était la seule famille d'origine allemande dans l'Estac, bien entendu. C'est un plat que je continue à aimer beaucoup, et j'essaie de, moi aussi, tous les, je sais pas, au moins une fois par trimestre, d'aller dans une bonne brasserie à Paris pour manger une choucroute, qui évidemment ne vaudra jamais celle de ma mère.
Estherelle Payani, Kylian Stangel, on s'est quitté il y a quelques minutes, juste avant cette Madeleine. Sur les mots, justement, je voulais vous demander le poids des mots, puisque vous racontez quelque chose d'intéressant, Estherelle Payani, dans ce guide chef. Vous dites que souvent, les femmes que vous avez rencontrées, hormis celles qui vous ont écrit pour paraître dans ce guide, les femmes que vous avez rencontrées ne se reconnaissent pas comme chef. Même si on met deux F, E, c'est pas un mot qu'elles apprécient, parce que le chef, c'est l'homme, traditionnellement, en cuisine.
C'est vrai qu'on a un imaginaire du chef qui a été véhiculé, même dans les émojis de nos téléphones portables. Ça reste une personne avec une toque. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui portent les toques en cuisine, d'ailleurs. Quand elles l'ont fait dans les années 70, pour certaines photos, elles se sont pris des soufflantes de Paul Bocuse, d'ailleurs. Donc, c'est pas un attribut considéré comme féminin. Donc, cet imaginaire du chef, un homme blanc...
Qui dirige une brigade, terme masculin.
Qui dirige une brigade. Elles m'ont dit, en fait, je ne me reconnais pas là-dedans du tout. Il y en a qui ont employé le terme mama, il y en a qui ont employé le terme cuisinière. Le thème cuisinière revient beaucoup, avec toujours cette problématique de la féminisation des noms dans les cuisines. Une chocolatière, c'est un instrument. Une cuisinière, c'est quelque chose sur lequel on cuit quelque chose. Vous remarquerez que la féminisation renvoie presque toujours à l'ustensile en cuisine. C'est quand même assez compliqué. Et d'autre part, dans les années 70, là encore, parce que c'est une zone qui est très très peu explorée dans l'histoire de la gastronomie et des femmes, où il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher, l'Association des maîtres restaurateurs de France ne permettait pas aux femmes d'être dans leur association. Ça n'a été possible que dans les années 90. Donc dans les années 70, Annie Devigne a créé l'Association des restauratrices cuisinières. Elle n'a pas choisi le mot « l'Association des restauratrices chefs », elle a choisi le mot « cuisinière ». C'est donc un mot particulièrement important.
Et ces mots sont aussi des expressions, des façons de parler. Dans votre ouvrage collectif Kylian Stangel, on peut lire notamment un article dans lequel il est question de toutes ces émissions de télé où, par exemple, on demande à une femme comment elle exprime sa part de féminité dans l'assiette.
Ouais, ouais.
Et est-ce qu'on demanderait à un homme comment il exprime sa part de masculinité dans l'assiette? Je n'en suis pas certaine.
Oui, mais la part de féminité que vous venez d'évoquer, qui l'a dit dans cette émission sur M6 autour de la pâtisserie? Une certaine Mercotte. Aujourd'hui, on s'aperçoit dans ces émissions qu'il y a des termes aussi sur la masculinité qui n'ont pas leur place. Quand je vois un chef cuisinier qui évoque à une femme que sa recette est couillue, ou une animatrice d'émission qui explique à une femme que sa recette est légère, élégante, manucurée même, on voit que c'est des termes qui n'ont pas leur place dans l'émission déjà, parce que ils n'apportent pas une réalité. Chacun peut avoir sa propre représentation de quelque chose de manucuré. Et surtout, ces termes, finalement, amènent un stéréotype, comme vous le disiez au début de l'émission, mais qu'on ne peut pas lire, qu'on ne sait pas si finalement ça a une forme de critique ou une forme de valorisation de l'individu, voire de sa recette.
En tous les cas, il y a une vraie distinction entre, vous parliez de la technicité tout à l'heure, Estherelle Payani, entre le vocabulaire plutôt technique qui est attribué aux hommes et la sensibilité qui est plutôt aux femmes. Est-ce que d'ailleurs, vous diriez l'un et l'autre qu'il y a, comme on peut l'évoquer en littérature, une cuisine féminine et une cuisine masculine, les rognons pour les garçons, la déco pour les filles, Estherelle Payani?
Non. Moi, je sais qu'à l'aveugle, en tant que critique, si on m'amène une assiette, je ne sais pas qui est le chef, je suis incapable de dire si c'est un homme ou une femme. C'est ça qui compte pour moi. Je pense que si on n'a pas besoin de ses organes sexuels pour faire un acte, en priori cuisiner, c'est qu'on ne peut pas parler de cuisine féminine ou masculine. Je ne vois pas.
Il y a la façon de faire, et puis il y a aussi ce qu'on trouve dans l'assiette. Selon une étude de l'ANSES en 2017, malgré tout, il y aurait une différence entre l'assiette des hommes et celle des femmes, puisque les hommes iraient plus volontiers vers les céréales, les viandes, la charcuterie, les femmes vers les compotes, les soupes, les boissons chaudes, les volailles, les légumes. Et aujourd'hui, le bio, les salons de thé sont plutôt fréquentés par des femmes, le vegan et le bio aussi. Et d'ailleurs, vous-même, Estherelle Payani, je crois que vous aimez particulièrement la cuisine végétale. Est-ce que ça veut dire vous, une femme?
Alors, en tant que critique, je mange de tout, y compris ce que je n'aime pas. Donc, c'est pas parce que j'ai beaucoup travaillé sur la cuisine végétarienne, parce que c'est une cuisine pour laquelle les gens manquaient de repères. Et en tant qu'auteur de livres culinaires, il est important de donner de quoi avancer dans les foyers tous les jours. Or, tout le monde sait cuire un steak, beaucoup moins de gens savaient faire quoi faire avec des légumes. Voilà le pourquoi sur mon engagement de la cuisine végétarienne. Après, en tant que critique, en effet, je vois au restaurant, quand on prend ma commande parfois, je vais des endroits, la spécialité, donc on a dit des tripes, des abats, du foie, et on dit pour madame ce sera une salade. Parfois on présuppose de ma commande, ou parfois quand je suis reconnue par le chef ou la chef, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en Sicile, on m'a changé mon menu d'office. Alors est-ce que c'était pour être plus adapté à mon genre? Est-ce que c'était pour être plus adapté à autre chose? Je ne sais pas, mais pour moi c'est aussi le vin. Le vin, c'est exactement la même problématique. Les femmes sont censées aimer le vin plus léger.
Le rosé en particulier.
Quelle horreur.
Pour vous, Kylian Stangel, ça correspond à la nature, ça correspond aux clichés véhiculés par les médias, la publicité.
Voilà, exactement. À ce qu'on diffuse dans
la minceur pour les femmes, la musculature pour les hommes.
Exactement. Quand on voit les pubs de Weight Watcher et autres fitness, c'est avant tout une femme qui est montrée dès que c'est alimentaire. Et ça amène à des grosses dérives. Dans l'ouvrage, justement, une psychanalyste nous évoque le cas d'une jeune qui vient en séance chez elle. Et qui lui explique qu'elle est mal dans sa peau parce qu'elle adore la viande, elle adore les abats et elle s'interdit d'en manger afin de rentrer dans le stéréotype féminin. On est aussi dans l'obsession calorique aujourd'hui, dans cette dictature nutritionniste.
Juste un mot pour terminer, Estherelle Payani, sur ce qui reste à faire, parce qu'on parle quand même beaucoup aujourd'hui d'un nécessaire retour à la cuisine, de la remise en cause de ces produits tout fabriqués, ultra transformés, qui font beaucoup de mal à la santé. Est-ce que vous craignez que ce mouvement de retour à la cuisine s'accompagne d'un mouvement de régression pour les femmes, puisque c'est encore les femmes qui sont
dans
les cuisines?
Mais totalement, parce que ça fait porter une charge de plus dans les foyers, avec le « c'est très mal d'utiliser de l'agroalimentaire, il faut tout faire soi-même ». Ah oui, mais pour tout faire soi-même, il faut que les hommes s'y mettent aussi beaucoup plus. Dans ma famille, c'est plutôt mon père qui cuisinait. Je crois que ça m'a donné une vision différente des choses dès le départ. Pour moi, ce n'est pas un acte formellement genré. Donc attention en effet à ce dictat du bien manger dans les familles, il faut qu'il soit porté par les hommes et les femmes.
Kylian Saint-Gel, la parole finale à l'homme.
Je vais naturellement dans le sens d'Estherelle, même si je ne voudrais pas qu'on fasse une généralité, il y a quand même beaucoup d'hommes quadras et de cette génération qui ne font pas l'effort, qui font ça naturellement, de préparer le repas le moins noble qui soit, qui est le repas du quotidien. Par contre, il y a encore beaucoup trop d'hommes, toujours de la même génération, qui tout d'un coup estiment qu'ils font un superbe effort et quelque chose de magnifique quand ils sortent le barbecue le dimanche que c'est madame qui a fait les courses malgré tout chez le boucher et qu'eux, ils vont chercher juste le sac de charbon de bois. Et ça, j'adore cette caricature.
Il y a encore du pain sur la planche, on aura compris. Merci beaucoup, Kylian Saint-Gel. La cuisine a-t-elle un sexe? C'est vous qui avez dirigé cet ouvrage collectif paru aux éditions L'Armatan dans la collection Questions alimentaires et gastronomiques. Chef feu, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France. Estherelle Payani avec Veriane Frediani. C'est édité par Nourriture Fou.
C'est bien ça.
Merci beaucoup à tous les deux. Pierre Hiverna, je crois que c'est à vous pour la cerise sur le gâteau.
Oui,
surprise,
Caroline.
Donc.
C'est un peu une surprise. Oui, je vous emmène au beau milieu du chaos libanais de ces dernières semaines, à la rencontre d'un personnage incontournable, un activiste forcené de la préservation des produits du Moyen-Orient, de leurs producteurs et de ceux qui les cuisinent, ou plutôt, si l'on doit privilégier un genre à la cuisine de là-bas, de celle qui les sublime. Kamal Mouzawak a démarré sa petite entreprise voici une quinzaine d'années à Beyrouth en constatant que les souks qui regorgeaient de trésors patrimoniaux étaient inexorablement en train de se transformer en centres commerciaux de la pire espèce, ceux qui ne véhiculent aucun autre culte que celui des marques et s'agissant de l'alimentation sont les promoteurs de la malbouffe. Kamal, scrupuleux géographe de la cuisine de son pays, de la plaine de la Beka aux régions montagneuses de Baalbek, crée donc son propre souk, modeste, en banlieue de la capitale, avec une dizaine d'échoppes où l'on peut acheter, surtout goûter, cette sublime cuisine de rue, faite à partir des meilleurs produits et singulièrement par des femmes. Aujourd'hui, le souk El Tayeb est au centre-ville de Beyrouth et chaque mercredi et samedi, ce sont 80 producteurs qui déboulent de tout le Liban, mais pas que. Car si Kamal n'est peut-être pas à la une des journaux libanais, il est pourtant un artisan infatigable de la paix et un militant qui souhaite donner aux femmes un autre statut que celui d'épouse et de mère. Ainsi, au chapitre de la cuisine comme vecteur de paix, on trouve aussi au souk El Tayeb des stands tenus par des femmes venues tout droit d'un camp de réfugiés proche de l'aéroport qui compte, dit-on, 50 000 résidents. Le camp a développé son jardin potager et ses propres cuisines et Kamal y a trouvé des cuisinières palestiniennes et syriennes hors pair qui échangent recettes et savoir-faire, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Alors, la cuisine a-t-elle donc un sexe au Liban? Si l'on en croit Kamal, ici comme ailleurs, ce sont bien les femmes qui font et transmettent. Mais il est plus urgent ici qu'ailleurs que ce patrimoine ne se perde pas dans les méandres politiques d'un pays qui a d'autres urgences, notamment économiques, et où les as de l'agroalimentaire sont prêts à prendre le pouvoir dans les assiettes. Et le coup de génie de Kamal est d'avoir compris très vite qu'il fallait allier mise en valeur de ce patrimoine et modèle économique viable avec un réseau de clients en essor permanent. Le voilà donc à se dire que toutes ces femmes devaient aussi faire de leur talent un emploi. Et 5 ans après l'ouverture du souk, il ouvre à Beyrouth son premier restaurant qui comprend désormais des antennes dans 5 autres villes. Le concept ? Chaque semaine, une femme prend le pouvoir sur la cuisine. Elle décide de tout et devient chef de la semaine avec sa culture, ses produits, ses recettes. Il a ajouté là-dessus une entreprise de traiteurs pour optimiser les coûts et créer d'autres emplois pour d'autres femmes. Alors Caroline, autant vous dire qu'il est très difficile de choisir entre les Waranina Bhati, des feuilles de vigne farcies fantastiques, ou le Majdrat El Loubier, un ragoût de lentilles rouges, de boulgour et d'oignons frits concocté par Georgina El Baye, une ancienne du souk El Tayeb, ou les incroyables pains et pâtisseries de Mona El Dor. Un point noir? Oui, il faut faire la queue, le succès est immense.
C'était la chronique de Pierre Hiverna. Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve la semaine prochaine. Les bonnes choses se poursuivent en réécouté en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe des bonnes choses, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, Virginie Ledio, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Alexandre Dang, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Tout de suite, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman.